Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
À bord du Manureva, c'est un chasseur d'ivoire qui a la fièvre dans le sang. Il se méfie de l'ennemi dans la glace et en regardant la mer, contemple le temps qui court. Que ce soit avec les mots de Jacques Duval, de Pierre-Dominique Burgot, de Jay Alansky ou de Serge Gainsbourg, cela fait plus de 50 ans que la France a son dandy pop en la personne d'Alain Chamfort, un musicien qui a su mettre le groove du disco ou les synthés de la New Wave au service d'une chanson française toujours élégante. En 2016, il avait même confié son répertoire, sous la houlette de Marco Dos Santos, à une partie de la scène électronique française. Chloé, Jennifer Cardini, David Shaw, Get a Room, Scratch Massive ou Plaisir de France avaient, avec le talent qu'on leur connaît, ramené Chamfort sur la piste de danse, lui qui ne s'en était jamais trop éloigné. Mais aujourd'hui, c'est avec les cordes, les cuivres et les percussions d'un orchestre classique qu'il revisite ses tubes de dandy devenus symphoniques pour un album qui sortira en vinyle collector vendredi prochain. Il sera mercredi 23 mars sur la scène du Grand Rex à Paris avec l'orchestre L'Amoureux, mais aujourd'hui, il est à la Folie et l'un du Parc de la Villette, en direct sur tsugiradio.fr. Alain Chamfort est l'invité très spécial de Serge l'émission.
Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court. La vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps qui court change les plaisirs, et que le manque d'amour nous fait vieillir. À l'heure qu'il est, mes voitures de plastique sont devenues vraies depuis longtemps. Et finalement, les affaires et l'argent ont remplacé mes jouets d'avant. Et c'est le temps qui court. La vie nous a rendus plus orgueilleux. parce que le temps qui court change les plaisirs et que le manque d'amour nous fait vieillir. Toujours le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. D'amour nous a fait vieillir parce que le temps qui court, oh le temps qui court, change les plaisirs et que le manque d'amour nous a fait vieillir. Toujours le temps qui court.
Bonjour Alain Chamfort.
Bonjour.
Bienvenue sur la Tsugi Radio et bonjour Patrice Bardot.
Bonjour.
Bon, et bien sûr, les transitions continuent. Hein. Le Didier Varro est un petit peu en retard, il ne devrait pas trop tarder.
Ça, c'est obligé, hein, c'est une tradition
C'est une tradition de Serge.
Oui, c'est ça.
J'ai voulu commencer par Le Temps qui court, Alain Chamfort, cette chanson de 1975 qui est avant tes albums et avant que tu prennes un peu le champ libre. Ouais. Et en même temps, avec ce titre qui résume aussi beaucoup le fait de faire un album comme celui-ci et de regarder un peu dans le rétroviseur. Ouais. Il y a eu la volonté de regarder dans le rétroviseur avec ce dandy symphonique, Alain Chamfort.
Bah, disons que on regarde dans son répertoire, quoi. De toute façon, le répertoire, il est constitué depuis plusieurs années. Effectivement, on peut pas faire autrement que de passer par ce qui a déjà été fait, quoi. On n'est pas dans la conception d'un album original. Non, donc c'est vrai, on essayait surtout de sélectionner des chansons. J'ai fait une première sélection, moi, pour présenter mon travail à Nobuyuki Akajima, qui a fait les orchestrations, et à l'intérieur de cette première sélection, il en a lui-même fait une seconde en faisant un petit peu ses choix personnels, qui étaient les chansons qui l'inspiraient le mieux, quoi. Donc, moi, j'avais déjà fait un tri qui me paraissait à la fois de tenir compte de la musicalité, enfin, c'était des chansons qui pouvaient prétendre être orchestré, quoi, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une base qui était suffisamment inscrite dans une forme classique, je dirais, harmonique, etc., qui justifiait, en tout cas qui permettait de les pousser un peu plus dans les orchestrations, et puis voilà, quoi, voilà.
Quel était en fait le point de départ de cet album? C'était une volonté de ta part?
Non, ben j'aurais bien aimé avoir ce genre d'idée, mais en plus, j'étais tout de suite arrêté parce que je savais que c'était impossible à mettre en place. Et c'était une proposition qui émanait d'une femme qui s'appelle Valérie Chevalier, qui dirige l'Opéra de Montpellier et qui est directrice de l'orchestre aussi. Donc elle a la responsabilité de gérer un peu la programmation de l'orchestre et des événements qu'elle crée à Montpellier. Donc et elle a eu cette idée qui m'a effectivement beaucoup séduit, moi, de me proposer de venir chanter là-bas avec l'orchestre de Montpellier, qu'elle mettait à la disposition. À partir du moment où on était d'accord et on acceptait sa proposition et qu'on travaillait pour pouvoir présenter à l'orchestre après les arrangements lors de la soirée où je venais chanter, quoi. Voilà.
Une soirée qui devait avoir lieu le soir du second confinement à l'automne 2020. Oui, donc le public n'a pas pu venir, mais vous avez quand même donné ce concert et vous l'avez capté. Oui. On a l'impression que c'est un peu un graal parfois pour les chanteurs pop de venir enregistrer avec un orchestre symphonique. Que en tout cas que vous êtes tous très excités, tous et toutes très excités à cette idée-là. Qu'est-ce qui vous séduit tant Alain Chamfort et les Véronique Sanson et les Clara Luciani à faire ce genre d'exercice?
Parce qu'on a une formation, je parle pour Véronique, en tout cas je ne sais pas en ce qui concerne Clara parce que je ne la connais pas suffisamment, mais on a une formation classique à la base. On a appris les œuvres de compositeurs classiques comme tous les enfants qui jouent du piano, et avec cette formation-là, on a l'oreille qui est quand même assez formée aussi pour... dans nos compositions, pour que ça s'entende d'une certaine manière. C'est un type qui a appris la musique à travers le rock et des accords extrêmement simplifiés qu'on fait à la guitare. Il fera des chansons formidables, mais qui n'auront pas la même musicalité, quoi, qui seront beaucoup plus simples, etc. Et donc, quand on a une formation comme ça de musiciens, on écrit déjà d'une certaine manière. Moi, j'aime les mélodies. J'aime effectivement que le canevas harmonique en dessous, il soit un petit peu travaillé. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose un peu d'original à chaque fois. Ou je sais pas. Enfin, voilà, que ça soit assez que ça me séduise, que ça me plaise. Quoi. Donc voilà. Sur cette base-là, après, on entre dans une écriture d'arrangement, je dirais, les versions originales, qui sont celles de notre époque, quoi. On joue avec les synthés, avec les rythmiques, enfin toute la musique pop, la musique qui nous a aussi qui a pris la succession de notre formation, quoi.
Parce que ce qui est assez étonnant dans cet album, c'est que là, c'est vrai que le temps qui court est très classique, on va dire, mais le reste des titres reste très pop. Je trouve qu'il y a un esprit quand même pop.
Alors le temps qui court, c'est différent parce qu'il est il a été construit. Enfin, c'est pas moi qui l'ai composé, hein, c'est Barry Manilow, et c'est une chanson. Il s'est appuyé sur un prélude de Chopin, donc il y a déjà une construction très très riche, harmonique, etc. Donc c'est assez logique, quoi. Alors moi, mes chansons, elles sont plus pop, effectivement, et on a voulu à la fois utiliser l'orchestre, bien sûr, avec toutes les timbres différents qu'ils proposent, mais en même temps j'ai une voix qui est ce qu'elle est, et qui il fallait qu'elle puisse aussi exister.
Tu la pousses un peu dans ces derniers retranchements. Moi, ça, je trouve.
Sur ce titre-là, ou un peu davantage.
Non, mais même sur d'autres titres. Je trouve que.
Bah, écoute, c'est peut-être parce que. On est peut-être un peu obligé.
Une sorte de libération, on dirait.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se sent un peu plus libre aussi à chanter avec un orchestre comme ça?
Oui, parce qu'on n'est pas. Sur le tempo, on est moins. On chante moins sur la rythmique, quoi.
Et puis le chef. Regarde le soliste aussi.
Et puis voilà, on essaye d'être ensemble, quoi. Enfin, je garde une espèce de liberté quand même sur l'interprétation, parce que j'essaye de porter l'attention quand même sur ce que je suis en train de dire, la justesse du texte, quoi. Et après l'orchestre suit. Enfin, c'est amusant, quoi. Ouais.
Alors Alain Chamfort est l'invité de Serge Lhémission aujourd'hui. Dans Serge Lhémission, on écoute des classiques, on écoute des titres du répertoire, et puis on écoute aussi des nouveautés, parce que c'est l'ADN de Tsugi. Et on avait envie, comme ça, tous les trois, avec Patrice et Didier, qui est en train de marcher parce qu'il y a un petit problème de métro jusqu'au parc de la Villette. On avait envie de te faire découvrir un petit peu nos coups de cœur du moment. Et Patrice, le premier coup de cœur de cette émission, c'est le tien.
Oui, alors il s'agit de Damlif. Alors Damlif, on pourrait penser qu'il y a un rapport avec Damso, par exemple, mais non, si ce n'est que, ils font tous les deux un peu du hip-hop. Lui, il a 22 ans, c'est le membre d'un collectif parisien qui s'appelle 75e Session. On trouve dans ce collectif Népal, Sheldon et surtout Giorgio. Giorgio, hein,
et au succès voilà, qu'on ne présente plus.
On ne présente plus. Et alors, il a des références chansons françaises qui sont Gainsbourg et Michel Jonas, qui est quand même dans la jeune génération. Je trouve ça assez étonnant, Michel Jonas comme référence, mais c'est le cas. Et puis également au niveau des jazzmen, parce qu'on sent il y a un esprit un peu jazz, comme Art Blakey, par exemple. Et bon, autrement, c'est les rappeurs de ce siècle qui l'inspirent, comme Régis Snow, Earl Sweatshirt. Alors, je pense qu'on va l'écouter, puis on en parlera.
On va en parler juste après avec Alain Chamfort. Okay. Et Didier Varro, peut-être, s'il est arrivé.
C'est ça ce qu'elle m'a raconté, Herbin. Voilà. Elle m'a dit qu'à la chorale, à l'école, ils ont appris une nouvelle chanson. Okay. Et toi, tu as appris laquelle?
J'accorde une inhérente déception au monde. Un mot de tes fleurs là pour produire des lésions profondes. Je ne sais que faire preuve d'une grande déraison. Mais panique à trouver une autre maison. Loin de mes yeux, loin de mes pauvres nerfs. Ils peuvent enfin prendre l'air. Aurais-je cru si vous aviez dit à mon ancien moi que j'irais par là? Dites-moi, on a passé des soirs à trouver les murets qu'on pourrait graffer, trouver des embrouilles à chorégraphier, plusieurs approches, gratter la surface ou bien les rafler, vouloir se comprendre, en avoir peur, se complaire dans l'idée qu'on est un homme, mais pas assez fort pour se donner un ordre. Je respire seulement pour perdre mon souffle, un nouveau regard lorsque les plaies dormantes s'ouvrent. Où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon... Modulation des sentiments perçus. Modulation des sentiments perçus. Après 10 ans, j'en ai compris l'envergure. Tu sais, j'ai peu de conviction et je prends les coups comme ils sont. Dur comme le bitume, chaud comme un corps, mais la même chaleur que l'alcool. Et je peux voir la peur dans mes globes oculaires, perdu comme un gosse, si l'on ne m'accorde aucune aide. J'avais voulu être musicien, ou un vrai poète. Y'a mon reflet dans l'immeuble d'en face. Je me demande ce qu'il fait quand je ne regarde plus. Visage baissé, bagarre de rue. Habitué à ce que le vacarme dure. Ici l'air est stable, humide et froid. Comme si la pluie se retenait. Et quand le vent pointe, c'est pour me chuchoter. Si tu pars, tu seras plus heureux peut-être. Où est passé mon malaise?
Rouge à lèvres, c'est Dame Liv sur le player de la Tsugi Radio avec notre invité Alain Chamfort. Alain, on a envie de te demander si du rap, du hip-hop, tu en écoutes aujourd'hui que ça truste le haut des charts.
Oui, bien sûr, hein. C'est difficile d'y échapper en même temps. J'ai pas forcément envie d'y échapper non plus. C'est important de vivre avec la pulsion de l'époque, quoi. Mais je demandais si c'était un garçon était un blanc ou un noir parce que mais parce que je trouvais qu'il avait un accent plutôt plus blanc que noir, quoi. Voilà. Donc,
C'est le cas, et c'est vrai que c'est, je trouve qu'il y a une ambiance assez, assez mystérieuse, un peu énigmatique, poétique, qui m'a séduit.
Oui.
C'est des arrangements très minimaux comme ça. Il a un premier EP qui va sortir en avril chez Yotanka. Bon, je trouve que c'est prometteur. Ouais.
Et puis on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie, comme vous avez pu le faire dans les années 70-80 avec les synthés, etc. On voit bien aujourd'hui que les gens absorbent, les musiciens absorbent la musique un peu partout et ils mélangent tout, comme on l'entend, où il y a du rap, mais il y a aussi des moments mélodiques et puis des moments avec du sample, avec des ouais, instruments
c'est,
comme
c'est,
ça.
C'est amusant parce que, alors ils appellent ça du son. Nous, à l'époque, c'est un playback. On faisait soit synthétique, soit un mélange organique, synthétique, soit enfin, bon, ben, tout a existé de toute façon. Ouais. Mais aujourd'hui, il parle vraiment de son. C'est vraiment, et c'est amusant parce que je suis en train de travailler sur un prochain album là, et c'est aussi de cette manière que je m'y intéresse, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on parle plus en termes forcément d'arrangement, de production, de machin, mais on essaie de faire concevoir un son.
C'est plus une question d'ambiance finalement maintenant, la musique.
Ouais.
D'ambiance créée par les machines ou les
ça ou de tout, enfin, un assemblage de plus ou moins, enfin, de différentes choses, mais qui font qu'à un seul coup il y a un son qui n'est pas celui de l'autre, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Il faut trouver sa signature.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et je trouve que là, Damlif le trouve assez. À la production, c'est une production qui s'appelle Toboé, qui travaille justement avec ce collectif-là, 75e session, pardon.
Mais tu la sens aujourd'hui, la créativité, le dynamisme dans la scène française. C'est vrai qu'il y a toute une époque au tournant des années 90-2000 où il faisait pas forcément bon ton de chanter en français. Ouais. Quand le français est revenu, il est revenu sur des formes plus classiques comme le rock, etc. Et aujourd'hui, tout le monde, personne n'imaginerait chanter en anglais. Enfin, ils sont très très rares. Ouais. Et avec aussi cette folie créatrice de production dont on parlait.
Oui, il y a un renouveau, quoi. Il y a un besoin d'identité, de se ressentir, de se recentrer dans sa culture, dans ses références. Alors quelquefois c'est la discographie ou la discothèque des parents, parce que quand on demande à un jeune artiste qu'est-ce qu'il écoutait, généralement c'est des artistes des années 80-90, enfin, c'est amusant, quoi. Mais tout ça est au service d'une créativité qui est tout le temps renouvelée, effectivement. Mais ça a toujours été le principe de la musique, de toute façon. À chaque époque, la musique, ça a été des rencontres des gens qui aimaient quelquefois des musiques différentes, puis qui ont été amenés un jour à travailler ensemble, et qui, le produit de leur rencontre a donné une musique différente de celle qu'ils produisaient chacun de leur côté. Et ensemble, ils ont fait place à une autre musique. Et ça a été comme ça depuis des décennies, et puis ça va continuer, quoi.
Et aujourd'hui, les jeunes, ils bousculent le compositeur et le musicien que tu es. Ils t'inspirent, ils te mettent un peu
C'est-à-dire que je pense que le rap, effectivement, a installé quelque chose une césure, quoi, qui était vraiment, on s'éloigne vraiment de la mélodie, je trouve, pour entrer dans un flow, où on recrée, c'est plus de la mélodie, enfin, c'est un système de rythmique, quoi, essentiellement, qui est fait aussi par la voix, un petit peu, la voix décompose le tempo, comme avec des doubles croches, etc. Et puis après, c'est des petits gimmicks, des petites accroches, comme ça, c'est différent. Ce que c'est fait pour durer, je suis pas sûr. C'est un moment, quoi. C'est un moment de quelques années, et puis après ça va se transformer encore.
Et c'est vrai qu'on remarque même qu'il y a pas mal aujourd'hui de rappeurs qui vont vers la chanson et qui se mettent plus à chanter qu'à rapper, finalement.
Ouais, parce que
c'est un besoin de la mélodie.
C'est-à-dire que la mélodie, là, quand même, je pense qu'il y avait un besoin de s'en éloigner pour faire marquer sa différence à un moment donné, quoi. Générationnel, un truc bon. Et puis finalement, eux aussi sont sensibles à écouter à des choses qu'ils ont entendues étant plus jeunes, ou quoi. Et la mélodie, elle a quand même un pouvoir qui vient venir s'additionner au reste, quoi. Donc c'est pas forcément s'en dispenser constamment, c'est pas forcément la meilleure solution. On peut peut-être effectivement trouver un peut-être de d'entre deux, quoi.
Et est-ce qu'il y a des mélodies qui te rendent jaloux dans la nouvelle chanson française que tu as pu découvrir? Tu t'es dit, ah merde, alors si j'avais pu trouver celle-là.
Bah, tout. Enfin, disons que. Enfin, jaloux, non, parce que moi, j'aime bien. Justement, j'aime bien être quand même secoué par. Entendre quelque chose où je me dis, ah, c'est chouette quand même. Alors, il n'y a pas de la jalousie, il y a une petite. Ça met une petite excitation, c'est-à-dire ouais. il faut pas que je me laisse distancier, je sais pas, quelque chose comme ça, qu'on a envie de rester stimule, ouais, je pense, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est des ingrédients un peu nouveaux qu'on entend et qui entrent en nous et quand on travaille soi-même sur un propre projet, ces éléments maintenant se manifestent, quoi. Ils ressortent comme les autres qui nous ont nourris avant, mais ils s'additionnent, quoi, finalement. C'est amusant.
Tu es attentif à ce qui sort, à tout ça, ou bon, tu t'écoutes d'une manière distraite quand tu as l'occasion.
Ça, ouais, c'est plutôt comme ça que ça arrive. Finalement, ce qui émerge, on finit toujours par l'entendre, quoi. Ouais. Il y a tellement maintenant de. Alors, c'est-à-dire que quand on est sur les plateformes, on nous suggère un tas de choses en fonction de ce qu'on a aimé, etc. Et c'est. Je sais pas, ces algorithmes, mais je trouve ça un peu étrange, quoi, parce que c'est pas vrai, forcément, quoi.
Non, je sais pas sur quoi
c'est basé.
Alors, mais... ça dépend des plateformes. Il y en a, je veux pas faire de la pub pour certaines, mais il y en a où je remarque que c'est quand même assez fin, mais il y en a d'autres, bon, c'est quand même. Bon,
oui, parce qu'on aime aussi, c'est pas parce qu'on a aimé quelque chose qu'on va aimer ce qui en découle après, naturellement. Je pense que, voilà. Non, mais je pense que effectivement, moi, je perçois ce qui émerge, ce qui passe, ce qui est finalement séduit le plus grand nombre, je dirais, et que les médias récupèrent, etc. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire ils vont faire leur course un peu sur Internet, et puis après, ça rentre dans les programmations, et c'est à ce moment-là un peu que je finis par les entendre, quoi. Ouais.
Alors dans la programmation de cette émission, on va faire des allers-retours comme ça entre 2022 et puis carrière d'Alain Chamfort. Et voilà, c'est encore Patrice. On va tous les trois choisir un titre de ton répertoire. Ouais. Là, on va filer en 1990 sur l'album Trouble, Patrice.
Ouais, on l'écoute. Ben, y a un peu un lien avec ce que tu disais sur l'emploi du matériel et tout ça. Puis Trouble, c'est le premier album où tu utilises du sampler, un sampling.
Ouais, hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a utilisé les premières les techniques que les rappeurs utilisaient, c'est-à-dire on prenait des boucles de batterie de ça et on les time stretché pour les inscrire dans le rythme qui nous convenait et ça nous a amusé de faire ça, c'était vraiment un travail rigolo à faire. Ça ajoutait un peu de
ouais, c'était assez ludique.
C'était ludique, voilà, tout exactement. Et puis c'était amusant d'amener une technologie, enfin disons un style qui était très très appliqué dans le rap, et nous de le tirer à la chanson. Ça nous a amusé de faire ça, quoi, et de moderniser un peu la manière d'aborder la production de chansons, quoi.
Mais surtout en fait dans le titre que j'ai choisi, parce que c'est vrai qu'il y a le grand tube qui est Souris puisque c'est grave. Mais moi j'ai choisi Mama Grigri, qui est plus étonnant, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tout un couplet où c'est du rap, hein, quand même.
Ouais, ouais.
Et même il y a un moment donné, ça, on dirait un peu de l'acid house, hein, je trouve. Il y a des avec les boîtes à rythme et de basse, et puis il y a des paroles assez étonnantes sur la Nouvelle-Orléans, professeur Longuerre et tout ça.
Parce qu'on est allé faire l'album là-bas.
Enfin,
on est parti. Enfin, on l'a pas enregistré là-bas, mais on est parti travailler là-bas. On avait prétexté auprès de la maison de disque, je sais plus, à l'époque il y avait encore de l'argent, alors on en profitait. On est parti à Nouvelle-Orléans avec Marc Moulin et Jacques Duval, et on a passé 3 semaines là-bas. Mais on avait quand même des instruments qui nous permettaient d'avancer sur l'album, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des traces là dans certaines chansons.
Et toutes les paroles sont marrantes. Et puis la musique, c'est vrai que c'est très novateur. On est en 1990 quand même, donc il y a un petit côté Néné de Chérie aussi, je trouvais.
Ah ouais, j'ai plus ça en tête, donc je l'ai pas entendu.
On va peut-être écouter.
Allez, on va l'écouter. Mama Grigri, c'est Alain Chamfort sur la Tsugi Radio dans Serge l'émission.
Voilà, il suffit de prononcer le mot Acid House et Didier Varro débarque. Bonjour Didier Varro.
Bonsoir à vous.
Bienvenue
tous
sur la Tsugi Radio pour Serge L'Émission.
Et désolé, mais le métro n'est pas mon camarade préféré.
L'essentiel, c'est que tu sois arrivé parmi nous.
Mais oui.
Ces années 90, cet album Trouble d'Alain Chamfort, Didier Varro, tu en as quel souvenir, toi ?
Mais je l'adore. J'adore cet album parce que j'avais la sensation que Alain Chamfort devenait le pionnier de la musique électronique quand elle rencontre la chanson. C'est vrai que c'était à l'époque beaucoup d'artistes commençaient à français hein, dans la chanson, commençaient à regarder ces machines, ces sampleurs avec beaucoup de curiosité. Le hip-hop était déjà là et je trouve que cet album, il est réussi de bout en bout. Il y a Sappho et Sophie, enfin c'est un album que j'ai écouté en boucle, mais je dois dire je suis très heureux d'être là, non seulement parce que j'aime bien vous retrouver tous les mois, mais cette émission elle aurait aussi pu s'appeler aussi Alain, parce que je considère que c'est un des rares artistes dont la discographie est absolument impeccable, il n'y a absolument rien à jeter. Et moi, je suis fan depuis Mariage à l'essai, donc ça remonte à quand même l'autre siècle. Et à partir de Rock and Rose, moi, j'ai suivi absolument tous les albums d'Alain Chamfort. Et j'ai toujours trouvé que dans chaque album, il y avait une direction précise avec un propos, un style, des rencontres aussi avec des auteurs qui le réincarnaient, qui le faisaient redébuter ou... qu'il faisait recommencer. Et voilà, je trouve que c'est un artiste extrêmement important. Tu parlais aussi de l'attraction décisive qu'ont eu toute la jeune génération des musiciens électro pour s'immerger dans ce répertoire, et on a vu que c'était pas une figure de style, que c'était vraiment quelque chose qui était naturel de pouvoir confronter comme ça le répertoire d'Alain à celui de la musique électronique.
Moi, j'aurais bien aimé écouter Mama Grigri en version remixée, je pense.
Ça n'a pas été choisi,
mais la prochaine fois, au volume 2, on va dire.
Et c'était donc très difficile hein, de choisir dans ta discographie.
Ouais, c'était un exercice compliqué. Ouais. Hein.
Voilà, parce que Tout était souris, puisque C'est grave est une chanson que je mets dans mon top 20. Enfin, il y a plein de chansons de Alain.
Ça fait plaisir.
Micro-sillon, c'est une chanson dinguissime. Enfin, bon, bref.
Je trouve que c'est un peu c'est ce qui justifie le fait de faire ce métier. Enfin, je trouve que c'est. Si on a l'impression de servir des plats réchauffés, on n'a plus notre place. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir cette quand on décide de prolonger une activité, parce que ça fait des années maintenant, c'est vrai. Mais si je trouve que on peut le justifier si on apporte toujours quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on a fait avant et qu'on tient compte de notre expérience et de ce qui se passe dans notre vie et ce qu'on devient et que tout ça soit d'une certaine manière reflété dans notre travail quoi.
Les synthétiseurs, justement, ils sont rentrés comment dans ta vie, naturellement, après le piano, le clavier sur scène, et puis en studio, ouais. Commencer à s'amuser avec les filtres et
les premiers synthétiseurs que j'ai utilisés, ils étaient déjà polyphoniques, parce que moi, j'ai jamais été un technicien, à travailler sur l'onde, sur le filtre, tout ça justement. Il y avait des synthétiseurs. Celui qui m'a été le plus, enfin, c'est les Polymoog, les choses qui étaient déjà qui permettaient
de faire des accords, de
jouer avec des accords, avec des harmonies, voilà. Mais c'est vrai que dès que les instruments, après le piano, je suis passé par l'orgue, évidemment, l'orgue électronique. Et puis après il y a eu un mélotron qui est arrivé à un moment donné étrangement pendant quelques temps comme ça. Et puis les premiers synthés dès que ça ouvrait à des possibilités un peu nouvelles et on pouvait jouer, faut que ça reste, comme je disais tout à l'heure, faut que ça reste ludique. La musique, c'est quelque chose comme ça, on garde un sentiment qu'on éprouvait quand on était avec des copains quand on avait 13 ans et qu'on jouait chacun avec un instrument différent et qu'on se retrouvait autour de, voilà, c'était un prétexte pour être ensemble et pour s'amuser, continuer à s'amuser. Donc et je pense que on garde toujours un peu cet esprit là quand on est musicien. C'est marrant, on continue à aborder la musique finalement toujours comme une espèce de jeu, le truc pour fuir un peu la réalité, je crois.
Et tu es passionné par les machines, par tout
je dirais pas que je suis passionné, mais c'est un outil, voilà. C'est-à-dire que j'ai une époque je me suis un peu quand même intéressé avec les logiciels musicaux qui permettaient effectivement de faire beaucoup de choses tout seul. On avait tous les instruments devenaient virtuels et puis on pouvait faire un arrangement chez soi, voilà, avec l'aide comme ça de logiciels musicaux. Et puis après, j'ai acheté des sampleurs et puis j'ai acheté un tas de trucs. Mais c'était pas vraiment ma première qualité n'était pas de rentrer dans la technologie et d'essayer. J'utilisais ça juste pour vite être inspiré avec qu'un son m'entraîne quelque part, quoi. Mais c'est plus au service de la composition que de vouloir vraiment comprendre comment tout ça marchait, quoi. Et puis après, je me suis tourné vers des gens justement qui étaient qui eux maîtrisaient vraiment les choses. Comme ça, je perdais beaucoup moins de temps. Je leur demandais tout de suite, j'essayais de leur expliquer ce que je voulais, et puis ça me permettait de rentrer tout de suite dans le vif de ce que j'aime faire, quoi.
Serge, l'émission avec Alain Chamfort, on va continuer à avancer dans notre sélection. C'est marrant parce que en 1979, dans l'album Pause d'Alain Chamfort, où figure évidemment le tube Manureva, qui est le quatrième album d'Alain Chamfort, où il y a des textes de Gainsbourg, mais pas que, qui a été enregistré à Los Angeles après ta participation au chœur sur l'album Hollywood de Véronique Sanson, qui avait été enregistré deux ans auparavant à Los Angeles également. Eh bien, aujourd'hui, en 2022, sur l'album de quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est pas totalement une découverte parce que c'est son deuxième, qui sort là, qui vient de sortir, il y a aussi un titre qui s'appelle Démodé. Ah, et quand j'ai réécouté l'album, je me suis dit, je suis obligé de passer Fishback à Alain Chamfort. Puisque, voilà, vous avez un titre en commun et c'est pas du tout les mêmes chansons. Et pourtant, il y a des ficelles qu'on pourrait tirer. On écoute Fishback sur la Tsugi Radio. Le revival des années 80, mais ça fait au moins 20 ans que ça dure. Les années 80, ce n'est pas forcément un style. Les mecs ont découvert les synthés, les effets, ils s'éclatent. Notre époque est trop sérieuse. C'est Fishback qui parle comme ça, sous ta plume, dit Patrice Bardot, dans le numéro 147 de Tsugi. Alain Chamfort, partager un titre avec cette jeune femme, Fishback, qu'est-ce que ça t'évoque, démodé?
Ah oui, oui. Ça a failli être le titre de l'album, d'ailleurs, démodé à l'époque. Une fois de plus, je crois qu'on s'est heurté à un refus de la maison de disques.
CBS à l'époque. CBS, ouais. Et Goldman, son premier album, il voulait l'appeler Démodé. Aussi, voilà, on lui a dit non. Ouais, aussi.
Donc, pour les mêmes raisons.
Ah bah oui, carrément.
Et oui, Démodé. Je me rappelle.
Le texte était marrant.
Bah oui, oui, oui. Bah quoi dire dessus, oui, c'était, on pourrait faire un duo, oui. Mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup Fishback. On a fait une émission l'autre jour, on était ensemble et je suis allé lui dire que voilà, que j'aimais bien, mais c'est parce que moi je me force pas, parce que ça me faisait plaisir de lui dire. Et peut-être qu'on fera des choses ensemble, je sais pas du tout.
Ah, ça serait chouette.
Peu importe, oui, enfin, après chacun sa route, mais je veux dire, en tout cas, il y a des gens comme ça quand j'aime bien croiser, et même si ça donne rien sur le plan du travail, après on peut simplement prendre du plaisir à les écouter.
Mais peut-être qu'avec le temps ça change aussi les rapports au titre d'album, parce que le dernier album en 2018 s'appelait Le Désordre des Choses, peut-être ouais. Que CBS à l'époque aurait pas dit oui, mais finalement maintenant tu fais un peu plus ce que tu veux, parce qu'un titre d'album c'est aussi un moment, voilà quelque chose avec tes auteurs et la musique, etc. Essayez de raconter quelque chose de ton ressenti.
Bien sûr, et puis je pense que maintenant les labels sont un peu plus souples par rapport à ce genre de choses. Enfin, ils ont appris avec le temps quand même. Il est temps. Ils ont fait tellement d'erreurs pour beaucoup de gens, hein, d'ailleurs. Mais ça me rappelle même quand j'ai fait faire le clip avec les panneaux là, que j'ai fait il y a quelques années. Tout le monde disait, mais il ne faut absolument pas que tu fasses ça. Enfin, tout mon entourage était contre que j'ai fait ces trucs-là.
Faire les notes de bas de page. Voilà, tu étais entre deux maisons de disques, tu ne savais pas comment sortir ta musique. Tu as fait une chanson et tu chantais une chanson et il y avait des panneaux qui diffusaient « Je suis Alain Chamfort, j'ai commencé à chanter dans les années 60. » Et puis j'ai fait Manu Reva, j'ai fait Clara Veut la Lune, etc.
Voilà, c'était un clip un peu politique comme ça pour...
Clin d'œil à Dylan aussi. Clin d'œil à Dylan.
Oui, clin d'œil à Dylan.
Et oui, bien sûr, d'abord, on le mettait on a pompé Dylan, parce que ça coûtait pas cher. Tout même.
Et du coup, victoire de la musique du clip.
Et par contre, voilà, étonnamment.
Culpabilité des votants, oh merde.
Oui, l'histoire de la musique est faite de retournements comme ça aussi, c'est-à-dire d'artistes qui, à un moment, sont
trouvés en public, pas trop dans les maisons qui ne veulent plus. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se poser de questions, finalement. Il faut prendre des choses telles qu'elles arrivent ou pas, et puis faire avec ou pas.
Démodé, on en a peur quand on est chanteur, Alain Chamfort ?
Bon, on l'est toujours, à un moment donné. On l'est au début, par rapport à des gens qui sont pas convaincus, puis on l'a après par rapport à des gens qui se disent il faut un peu de fraîcheur, il faut passer à autre chose. Oui, enfin on est toujours le démodé de quelqu'un ou c'est
peut-être moins marqué à notre époque où c'est vrai qu'il y a tellement de revival, tellement il y a moins de tabous aussi, et ce qui fait que moi je trouve que c'est rare de dire quelqu'un qui est démodé, parce qu'il aura toujours des fans quelque part qui vont le redécouvrir grâce à Internet, grâce aux
plateformes. Oui, on n'est pas pour tout le monde en même temps.
C'est moins marqué qu'il y a peut-être 30 ans où effectivement... on pouvait être facilement démodé. Là, moi, je trouve que c'est vrai que ce grand robinet du streaming permet un tel remue d'artistes que, bon, un artiste aura toujours une manière d'être écouté.
Enfin, c'est mon point de vue. Mais moi, je trouve qu'Alain Chamfort a cette particularité précisément, peut-être par son côté un peu sideman, de ne jamais avoir été démodé.
Non,
oui,
c'est
il y a eu cette période où il est incarné avec d'autres les chanteurs à minette, mais dès lors qu'il a fait ce switch avec Rock'n'Roll, qui était un album salué par les gens qui aimaient la musique, mais qui n'a pas super bien marché,
non, du tout.
Il a fallu attendre Manu Reva pour que tu retrouves le sommet des hit-parades. Ouais. Et dans les années 80, tu vas faire des albums qui vont être salués par à peu près tout ce que le monde du journalisme compte de gens de bon goût. Souvent, il y avait des titres qui passaient à la radio. Il n'y avait pas forcément des cartons commerciaux à la clé. Mais il y a toujours eu cette élégance et ce truc qui fait que Chamfort, il est alors soit intemporel, soit pionnier, avant-gardiste, soit dans son époque. Et c'est vrai que c'est sur le long terme, comme ça. Moi, j'ai jamais vu un moment ou un autre ce positionnement où on se dit « Ah, ça va être compliqué parce que voilà, les choses ont changé. Toi, tu as toujours eu ce mais peut-être aussi par une attitude vis-à-vis des médias, la façon de mener ton métier, la façon aussi de faire de la scène, pardon, tu en as fait assez tardivement, tu l'as fait au moment où tu pensais que c'était opportun. Il y a quand même quelque chose comme de l'ordre de la gestion du silence aussi et du temps pour soi dans un parcours comme le tien.
Oui, alors on maîtrise pas tout non plus. Je pense que c'est aussi parce que j'ai jamais eu une place très prédominante, quoi. Tu vois. Alors comme tu expliquais, j'ai toujours été un petit peu sur les chemins de traverse comme ça. Pour quelle raison? Ça peut venir de plein de raisons différentes. La première, ça peut être par rapport à ce que je proposais, où il n'y avait pas forcément une énorme adhésion. La deuxième chose que j'ai tendance aussi à laquelle je pense de temps en temps, c'est que j'ai jamais été vraiment eu une équipe autour de moi, à part les gens avec qui je travaillais véritablement pour écrire les chansons, hein, qui étaient Jacques Duval, Marc Moulin, etc. Mais j'ai pas bénéficié d'un support de label, je dirais. Tu sais, les maisons disques, c'est un peu compliqué parce que tu dépends de la personne qui t'a signé. Moi, j'ai signé chez CBS il y a très longtemps, donc par Jacques Souplet à l'époque, et il a pris sa retraite très peu de temps après m'avoir signé. Et la maison de disques a été prise sous la responsabilité d'un autre homme qui s'appelait Alain Lévy, qui est arrivé, et il fallait que Alain Lévy pose sa signature, c'est-à-dire qu'il signe lui-même des artistes et qu'il impose ces artistes-là. Les artistes qui étaient déjà signés avant lui, il ne pouvait pas les revendiquer. C'est un petit peu toujours ce qui se passe dans une maison de disque. On est dépendant de la personne avec laquelle on signe le contrat parce que lui va engager véritablement un soutien, du marketing, tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, évidemment qu'on est plus porté parce qu'on est très soutenu. Et moi, j'ai manqué de ça tout le temps, d'une certaine manière. Tu vois, j'ai été récupéré. On a respecté les contrats qui étaient engagés. Donc, j'ai pas à me plaindre. On m'a donné les moyens de faire mes disques et tout. Mais j'ai pas bénéficié d'avoir été l'artiste choisi par le responsable du label qui voulait le mener là pour qu'il soit attribué le succès, soit attribué au responsable, tu vois. Ouais. Alors voilà. Donc il y a aussi à un moment donné la rencontre de, tu sais, il y a eu Virgin qui était un label tous les artistes qui ont signé chez Virgin à un moment donné ont été portés par ce label, tu vois. Ça soit Alain Souchon, Julien Clerc, Étienne,
Renaud,
absolument. Ouais, donc voilà, il y a des moments comme ça qui permettent d'être porté par une dynamique. Et j'ai jamais eu cette dynamique-là. Donc ça m'a permis d'avoir ma place et de pouvoir présenter les chansons qui me plaisaient et de faire et
qui ont traversé les époques aussi. Ça, c'est quand même
un phénomène. Manière, quoi. Tout le monde n'a pas des chansons. De ça et le temps a permis d'installer autre chose, quoi. Mais voilà.
Et puis moi, qui aime bien regarder ça dans l'histoire de la chanson française, il y a des gens qui font des tubes énormes, qui vendent énormément de disques et puis qui 20 ans ou 30 ans plus tard ne passent plus à la radio. Or toi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu as plein de standards qui font le beau jour des radios dites nostalgie, mais aussi de radios plus modernes, parce que encore une fois le son a pas réellement vieilli. Et puis ce sont des marqueurs dans la vie des gens. Je pense qu'il y a ça aussi. Puis il faut quand même le dire, on va quand même le dire aussi.
Oui, Didier.
Vous regardez toutes les pochettes de Chamfort. Il n'y en a pas une qui est naze. C'est-à-dire que le mec, il est beau tout le temps, il est élégant tout le temps. Non, mais c'est vrai aussi. Et il n'y a pas de ratage. Mais ça veut dire que quand même, il y a aussi une relation à l'image, à ce que raconte la pop musique. Tu es un pop modèle, pour revenir à un nom d'album que tu aimes bien, je crois. Voilà, il y a quelque chose de ça, quoi.
C'est vrai que j'ai participé à cette construction-là, parce que ça me plaisait aussi. Je trouvais que moi, mes modèles, c'était des gens qui essayaient d'incarner quelque chose qui te permettait de t'élever, enfin de pouvoir rêver un peu. Et donc, comme ça, j'avais cette position-là, à un moment donné, cette possibilité-là, je l'ai aussi appliquée de la même manière qu'Étienne aussi. C'est-à-dire qu'on était sensible à ce genre de choses. Nous, d'autres artistes nous faisaient rêver avant. On se dit maintenant qu'on est artiste, on va essayer d'en faire rêver certains.
Mais voilà, oui, mais ça fait partie de la culture et certains ne l'ont pas. Et ça aussi, ça fait ancrer dans une forme de pérennité, je pense.
Non, mais tu as raison, je trouve aussi. Oui.
Après, il y a un album que je trouve excellent, où on ne te voit pas sur la pochette, il me semble. C'est Saint-Laurent.
Oh là là, j'ai failli le choisir.
Ouais, moi aussi, j'ai
hésité. Un album qui marque aussi, voilà, Alain Chamfort, il fait des rebonds inattendus. Parce que c'est vrai que cet album.
Disons que là, je ne voyais pas de quelle manière mettre ma photo sur la pochette. Ça aurait fait une espèce de confusion impossible.
C'est difficile. Alors voilà, c'était un album où tu racontais à ta manière la vie de Saint-Laurent, voilà, avec ton parolier Pierre-Dominique Burgot.
Oui.
Un album qui a rencontré un certain écho, hein, et puis avec ce titre qu'on a pas mal entendu en radio, et c'était aussi une belle aventure d'avoir un esthète qui raconte la vie d'un autre esthète, finalement Alain Chamfort.
Alors ça, c'était c'est à Pierre-Dominique que je devais cette idée, parce que moi j'étais sans contrat à ce moment-là, ma maison de disque m'avait rendu en contrat et j'avais pas de projet personnel, et à ce moment-là c'est Pierre-Dominique qui est venu me proposer d'écrire un certain nombre de chansons sur la vie d'Yves Saint-Laurent et de constituer comme ça une espèce de biographie chantée.
Et très rock.
Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de choses, quoi. Ouais. Vraiment. Il y avait John Cale et
Louride
qui avait fait ça sur
Warhol.
C'est un petit peu
André, là.
Voilà, exactement. Et c'est un petit peu ça qui nous a donné l'idée. Et puis on a bien aimé cet album, et c'était une espèce de respiration comme ça, c'est-à-dire que c'était des chansons que j'avais écrites, bien sûr, enfin avec Pierre-Dominique, mais j'étais là, j'étais un narrateur, quoi. Je racontais la vie d'Yves Saint-Laurent. Mais j'ai bien aimé cet album. Ouais.
Mais alors moi je n'ai pas choisi une vie Saint-Laurent, j'ai choisi de retourner en 1986 avec le 7e album d'Alain Chamfort. Donc on avait cité Marc Moulin tout à l'heure, ça s'est passé au studio de Dan Laxman de Telex en Belgique évidemment. Aux paroles il y a bien sûr le fidèle Jacques Duval, on retrouve au clavier Wally Badaro, aux paroles aussi Boris Bergman pour ne citer que lui. Et je voudrais qu'on écoute Trace de toi, parce que moi c'est une chanson qui m'obsède, c'est un slow sur lequel j'ai dansé en boom à l'époque. Et c'était le premier single de cet album sorti en 1986, Alain Chamfort sur Atsugi Radio.
Tu te donnes à moi sans confession quand je veux t'aimer. Tu glisses une larme d'émotion dans ton décolleté, et je voudrais trouver les mots, mais je ne sais plus très bien si je dois me vouer à ton Dieu ou à tes saints. Alors sur ma peau tu laisses des traces de toi. Tout ce que je vois ne regarde que moi, et l'amour c'est tout ce que je veux refaire avec toi. Et même si souvent je suis envieux de ta jeunesse, si je m'attache à elle comme un esclave à sa maîtresse, c'est que sur moi je veux garder des traces de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang bang. Tous les tam tams africains, je les fais danser. Possédé.
Cette nuit, je veux que nous dansions l'apocalypse.
L'apocalypse.
Comme si c'était la fin du monde. L'apocalypse.
Oh, 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 oh.
Et même si la vie sépare un jour tous ceux qui s'aiment, si les gardiens de l'Éden nous posent des problèmes, dans mon âme je veux garder des traces de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang bang. Tous les tam tams africains, je les fais. Quand ton cœur fait bang bang bang. L'amour, tu sais, c'est pas sorcier.
L'album Tendre Fièvre, voilà, l'album Tendre Fièvre en 1986 avec ce single Trace de Soi, Trace de Toi, pardon.
Trace de Soi.
Trace de Soi aussi, Trace de Toi.
Avec, trace de soi,
avec ce saxophone qui me rendait dingue à l'époque. Ben oui, le saxophone des années 80 en même temps.
Oui,
bien dans la réverb, bien loin dans le mix.
La Carves Whisper de George Michael.
Pour ne pas le citer.
Avec un très joli clip qui était tourné en Grèce.
En Grèce, c'est ça. Costa Gekemenis.
Ouais.
Oui, c'était une belle histoire. Je sortais de ma relation avec Léo et on a. C'était, au départ, on devait faire un clip ensemble. C'est-à-dire, c'est amusant. Amusant. Kekemenis, on avait créé une relation avec lui. On l'aimait bien. On le trouvait un peu fou comme ça. Et puis, il avait proposé qu'on mette notre séparation dans le clip, quoi. Et ouais, c'était assez joli. C'était pas mal, finalement, artistiquement. Ça se défendait. Bon, c'est pas fait. Ouais.
Il y a eu une autre chanson de séparation aussi, Sinatra, qu'on retrouve sur Dandy Symphonique, où tu dis tu peux prendre tous les disques, mais moi je garde les Sinatra.
Ah, oui. Quelle chanson, ça aussi.
Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est une belle idée de Jacques Duval.
C'est
encore,
Duval, hein.
Oui, ouais, bien sûr. On pourra décider comme ça, ça peut être que lui.
Et dans l'album qu'a choisi Antoine, il y avait aussi Déchaîne-moi.
Oui, alors ça c'est Boris Bergman. C'était une adaptation de Barry White.
Voilà, ah oui, Barry White. Et tu es assez bon aussi dans les adaptations, parce que le temps qui court, comme tu l'as
voilà,
dit.
Ben j'en ai fait deux. J'ai fait ces deux-là finalement.
Et c'est assez réussi en fait.
Ouais,
ça
ouais,
t'a
ouais.
jamais tenté un jour de faire un album entier de reprises.
Enfin, c'est une idée que j'ai pas eue, mais ça aurait pas été. Oui, ça veut dire que quand même quand tu fais ça, c'est un peu la démonstration que t'es un peu arrivé à au bout de ta propre inspiration.
C'est
un signal un peu comme ça de fait.
Après celui qui était un peu ton mentor, Claude François, lui c'est vrai qu'il a repris beaucoup
un interprète pur, et à l'époque ça se faisait beaucoup.
Mais aujourd'hui il n'y a plus le même sentiment sur la reprise. Tous les artistes français de la jeune scène font à un moment ou à un autre, pour une émission de radio, pour une édition augmentée de leur album, une version d'un tube mondial en français, et ça fonctionne bien, et c'est redevenu aussi un exercice que les gens aiment bien. On peut parler d'Armanet avec The Weeknd, ou
Clara Luciani
avec La Baie, qui pour le coup là est un vrai succès. Il y a une espèce de ping-pong entre Métronomie
Moi, je préfère Fleabag quand elle reprend la Villiers.
C'est une histoire de haut fourneau, ça. Didier, il est venu le temps que tu fasses écouter à Alain ta petite nouveauté. Enfin, alors toi, t'arrives en retard, mais t'as quand même le droit à deux nouveautés. Ouais, donc, il y a des traitements de faveur dans cette émission.
Ah bon, mais ça, je suis jaloux. On n'était pas obligé de la garder. Hein. Alors, oui, non. En fait, c'était pour montrer qu'on avait une certaine constance dans cette émission, puisque je vous avais déjà fait partager mon enthousiasme à propos d'un jeune garçon qui s'appelle Efeb, qui avait sorti un premier EP et qui se prépare à sortir son deuxième EP dans les semaines à venir. Et c'est toujours un peu compliqué quand on a beaucoup aimé un premier EP en pointant quand même du doigt les fragilités, les choses qui sont un peu encore pas finies, de se dire « Ah, comment va évoluer le garçon ?» Et je trouve que dans ce deuxième EP, il évolue magnifiquement, il prend des risques mélodiques, il prend des risques aussi sur les textes. Et donc j'étais très heureux de pouvoir vous faire partager ce garçon que nous avions découvert aux Inouïs de Bourges avant la pandémie. Donc je vous parle de ça
en 2019.
Ça va être en 2019. Vrai charisme, vraie présence de ce garçon, et qui en plus a franchi un palier au niveau de son écriture, de ses textes. Et je vous propose tout de suite de découvrir, la chanson s'appelle Le Feu.
Peux-tu réparer, retrouver la confiance que l'on a égarée, le silence a creusé, tel un vide immense, un grand trou dans nos corps. Il s'y évapore comme de l'essence, on joue avec le feu. Pour faire de la lumière, on joue avec le feu. Comme le font tous les frères, tu dis.
croisé le fer, on a fait la guerre, voilà que l'on danse. Et l'on peut enfin faire connaissance. On joue avec le feu pour faire de la lumière. On joue avec le feu comme le font tous les frères. Tu dis qu'on est de ceux qui posent bien des problèmes. Moi je sais qu'on est de ceux qui savent pas dire je t'aime, sauf en silence.
Le feu, c'est Efeb sur la Tsugi Radio dans Serge, l'émission Le Choix de Didier Varro. Et je crois que Efeb a fait l'unanimité autour de la table. Alain Chamfort, je t'ai vu battre le rythme.
Mais il joue pas la facilité. Voilà, il fait pas couplet, refrain, pont, refrain, basta, avec un loop ou un beatmaker. Il y a quelque chose de très sophistiqué. C'est une chanson qu'on écoute, qu'on n'entend pas. Il faut l'écouter. Et tout le EP est comme ça. Il y a une chanson qui ouvre le EP qui s'appelle Comme le soleil, je crois, qui est aussi très 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 très, très belle. Enfin bon, bref, je suis content de voir que ce jeune garçon progresse, oui. Puis une belle personnalité scénique aussi.
Et Feb, une réaction à Alain Chamfort?
C'est un chouette nom. On peut pas l'oublier, quoi.
Il faut être à la hauteur.
Après, est-ce qu'il a du charisme, Didier?
Bah, il disait oui.
Bah oui. Il a tout de l'Efeb, précisément.
Alain Chamfort, maintenant Didier a choisi aussi un titre de ton répertoire. C'est un titre récent. Moi, c'est pareil. C'est un disque que j'ai beaucoup écouté. Le dernier album studio 2018, Le désordre des choses. Et tu as choisi Linoléum.
Ah oui, parce que cette chanson, elle est dingue. Elle est tout simplement dingue. Et finalement, elle synthétise assez bien. Elle clôture le dernier album. Donc, on a toujours un peu peur que les gens n'aillent pas jusqu'au bout de la dernière chanson d'un album, alors qu'elle est. Elle est super importante, elle vient juste après. J'ai hésité avec Palmyre parce que l'actualité aussi me donnait envie de passer ce titre-là. Même si je connais ma géographie, je sais que Palmyre, ça n'est pas en Ukraine. Mais il y a quand même dans le texte des choses qui racontent un peu le chaos du monde dans lequel on est, et puis cette absurdité qui nous traverse tous et que nous subissons. Mais cette chanson-là... je trouve que de faire ça au moment où tu l'as enregistré, ça montre l'extraordinaire modernité de ce que tu es en musique. Il y a une prise de risque, il y a du courage, il y a un angle précis, et puis cette chanson un peu étrange comme ça, avec des images qui interrogent, et avec cet adlib qui part dans un pur moment d'électronique, de musique électronique. Je trouve que elle montre que Chamfort est toujours un jeune et faible de la musique et qui laisse à penser que on a envie d'en avoir encore des nouvelles chansons de Chamfort.
Mais c'est un petit peu pour ça que je l'avais mise en fin d'album, parce qu'elle elle donnait une inclinaison un petit peu différente sur ce qui peut être un avenir, peut-être, tu vois, enfin, il y a sur une ouverture sur un autre album qui permettait d'imaginer que je reviendrais pas sur des recettes que j'avais déjà fait auparavant, quoi. Voilà, donc on est en train justement de travailler sur le prochain, là on essaye de respecter cette donne-là, en partie. Quoi. Ouais.
Et qu'est-ce qui restera de l'expérience symphonique, Alain Chamfort, dans
l'avenir? Moi,
dans
c'est un très joli moment de scène. Ça, je trouve que j'ai la chance d'avoir connu ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et que, voilà, c'est un moment suspendu, un moment ailleurs, quoi, qui est rejoint tout un tas d'images que j'avais de ce métier, ça allait de Broadway, je sais pas, enfin, il y a quelque chose à ce coup, on se retrouve dans une part qu'on n'aurait jamais pu penser possible. Et ça porte vraiment, je trouve que beaucoup de chansons que j'ai choisies et que quand je suis en train de les chanter avec, soutenu comme ça par cet orchestre, avec les arrangements magnifiques qu'a fait Nobuyuki, Je sais pas que je redécouvre mes chansons, mais je les incarne autrement. C'est vraiment un parti, c'est tout à fait particulier, quoi. J'aurais pas l'occasion de faire ça 25 fois dans ma vie, quoi. J'en suis très conscient et je vis ce moment-là avec beaucoup de conscience, quoi. Voilà.
Le 23 mars sur la scène du Grand Rex, je donnerai les autres dates tout à l'heure. On écoute Linoléum, Didier.
Oui.
Je crois que Patrice.
Non, je veux rajouter. Non, en fait, Linoléum concluait tes concerts aussi sur la dernière tournée.
Voilà, exactement.
Ça terminait un peu un apocalypse techno.
C'est vrai.
Je pense qu'il y avait certaines personnes du public qui devaient être assez surpris par ça.
Oui, mais je trouve que ça fait partie aussi des choses à surprendre un peu les gens. Je trouve que c'est important de pas forcément leur donner ce qu'ils attendent. Enfin, je trouve que c'est aussi de les laisser un peu une espèce de truc d'étrangeté, comme ça, à un moment donné.
Alain Chamfort sur la Tsugi Radio, invité de Serge d'émission. On écoute Linoléum, extrait du Désordre des choses en 2018.
Tout est dit, tout est clos. D'un coup de gomme. Tes cris, tes sanglots, ad libitum. L'homme est lino, linoléum. Glisse sur ma peau de linoléum. Des larmes, l'eau, l'ultimatum. Garde tes mots, la vie m'a fait comme. Comme le dernier des salauds, le premier des hommes. Du varan de Komodo, j'ai les chromosomes. Comme le dernier des crocos dans son vivarium. Je n'ai de sensible et beau, plus le moindre atome. Comme le dernier des
On m'a dit que j'étais un garçon.
C'est vrai.
On m'a dit que pour être un garçon,
il fallait
taper, taper, taper sur les filles et sur les ballons, ballons, ouais. Taper, taper l'incruste, mais pas la discussion, jamais. Taper des poings sur la table et sur les fils de pion, ouais. Montrer mes poils de jambes, mais pas mes émotions, jamais. Briller, briller dans la fête et la compétition, ouais. Briller, briller dans la tête et dans les opinions. Mais moi, le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésies. Los, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles, du rouge dans mon journal intime. Quand les parents partaient, c'était le défilé. Gloss, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des barésies.
Le deuxième choix de Didier Varro pour
c'est
cette émission.
Un aperçu. Merci,
voilà. Oscar les vacances avec Garçon, Didier.
Oui, bon, écoutez, on reviendra sur ce garçon dont il est dit qu'il serait le fils illégitime de Jean Ferrat et de Philippe Catherine. Alors Jean Ferrat, wow, parce que
c'est généalogie.
C'est un cœur d'Ardéchois. Philippe Catherine, on comprend davantage la filiation artistique. C'est un garçon que j'ai découvert grâce à une jeune femme qui travaille pour moi à Radio France et qui est basée à Lyon et qui un jour m'a dit, elle s'appelle Véronique Hiller et je la salue, il faut absolument que tu écoutes ce garçon. Et tout de suite, mais alors le premier titre s'appelait Vroom Vroom déjà, c'était voilà, il y a un univers très fort. Le garçon, il est incroyable, il fait ses clips. À chaque fois, il se passe quelque chose aussi dans l'imagerie, et on y reviendra. Mais j'étais content aussi de choisir ce titre-là parce que Chamfort aussi, il s'inscrit dans une forme de chanson sans testostérone, loin des codes virilistes qui ont dominé la chanson masculine des années 60 et 70 et qui a commencé à s'atténuer heureusement dans les années 80. Et là aussi, Chamfort était une sorte de pionnier dans une posture non viriliste de la chanson, et il faut aussi saluer ça parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes artistes garçons qui sont pas forcément homosexuels mais qui font de la chanson où il y a le trouble, titre d'un des albums de Chamfort. Voilà.
C'est chouette. que dire après ça?
J'aime bien. J'ai toujours aimé t'écouter.
On écoutait religieusement tous les trois.
C'est vrai que, je veux dire, t'étais le premier en tout cas à faire des vrais papiers d'introduction. Je me souviens quand tu travaillais encore avec. Le défunt
Jean-Louis Foulquier.
Jean-Louis Foulquier. J'avais l'impression qu'enfin quelqu'un écoutait mes disques. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que. Et c'était vraiment. C'est vrai, je dis ça parce que c'est totalement vrai, quoi. Didier, il faisait un travail, quoi. Il écoutait vraiment les disques, il savait les chroniquer, il savait pourquoi il en parlait. C'était pas juste repomper les trucs qui sortaient des maisons de disques, comme la plupart des journalistes faisaient. Enfin, ça m'avait vraiment touché de sentir qu'il y avait quand même des gens qui faisaient un petit leur travail, quoi, sérieusement.
Mais il y en a plein autour.
Et ils continuent à le faire.
Non, mais c'est vrai, mais après c'est devenu. Mais tu as vraiment été le premier en ce qui me concerne. Voilà.
Ouf, ça rajeunit pas en même temps. Hein.
Non. Alain Chamfort, dandy symphonique, ce terme de dandy, on te l'a souvent collé, d'autres journalistes que nous, etc. Tu le revendiques sur ce disque symphonique, c'est quoi? C'est un pied de nez?
Non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que le package, il m'a été proposé comme ça par Valérie Chevalier, dont je parlais tout à l'heure.
Qui est la directrice de l'Opéra de Montpellier, voilà, qui t'a proposé ce concert pour la première fois.
Qui avait déjà fait son affiche et qui avait tout ça en tête et me suis dit, il y a une logique, quoi. Si elle continue d'utiliser encore ces mots-là et tout, c'est pas non plus un chemin de croix, c'est là.
En même temps, Dandy timide, tu as toujours été assez réservé aussi, Alain Chamfort.
Oui, mais les dandys sont pas forcément des gens réservés. Enfin, moi je trouve qu'il y a une espèce de malentendu, quoi. Je me sens pas appartenir au dandysme, étrangement. Le dandy, il a une posture comme ça, un peu.
Un peu superficiel.
C'est un regard sur le monde comme ça, un peu distant, un peu pas méprisant, mais à la limite quand même.
Confondandisme et élégance.
Je pense qu'il y a eu Brummel, il a fait rapprocher les deux, Brummel. C'est-à-dire que d'un seul coup, le dandy élégant, on a un peu fait cette confusion, un peu. Activement, mais moi je me retrouve à être qualifié de dandy élégant. Bon voilà, il y a pire.
Et il y a aussi cette histoire de rapport à la masculinité aussi, puisque tu y es arrivé avant Souchon, avant Woolsey. Après, il y a eu effectivement cette acceptation de l'homme qui pleure, de l'homme fragile
quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et c'est vrai que venant de l'écurie de Claude François, c'était déjà être sacrément à contre-emploi que de travailler avec cet homme qui était à la fois viril en même temps qui faisait un peu folle tordue, donc c'est compliqué, mais
étrangement ce garçon était totalement hétéro malgré tout, c'est fou, hein. C'est-à-dire que il était très très sur sa propre
manierée,
voilà, il se maquillait, il était vraiment omnibulé par son aspect physique, et il était très très maniaque, il était très dans l'hygiène, il faisait nettoyer ses loges à l'éther intégralement par les assistants, etc. Enfin, voilà, c'était un personnage tout à fait étrange comme ça, mais qui adorait les jeunes filles, d'ailleurs très jeunes filles. Il y a des interviews de lui qui circulent de temps en temps, c'est aujourd'hui ça passe vraiment pas du tout.
Ah oui, oui,
c'est terrible, ouais. Quoi. Mais il avait cette image comme ça, un peu très féminé, très efféminé. Et moi, j'étais quand même très très là-dedans quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais les cheveux brochignés, et j'étais très attentif à mon physique et tout. Ouais. C'est vrai que j'avais une image très ambiguë, quoi. Ouais. Et en même temps, je l'assumais parce que j'étais comme ça, j'avais pas non plus à essayer de trouver quoi que ce soit d'autre. Alors, il y a pas mal de gens qui pensaient que j'étais le petit ami Claude François, etc. Bon, je laissais courir.
Mais est-ce que finalement, tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est aussi pas un grand. Ça permet pas aussi beaucoup de liberté, finalement, qu'il y ait du trouble, qu'on sache pas, que.
Oui. C'est pas très important. J'en ai pas souffert. J'ai jamais été. Ça me gênait pas. C'est pas des choses qui m'atteignaient véritablement. C'est pas très gênant. J'étais entouré de. En plus, j'étais entouré. Je travaillais avec Gérard Louvain à l'époque.
Ouais.
Je les ai collectionnés.
Le fait d'être un homme pour lequel Gainsbourg a écrit, on sait que les relations ont été compliquées au niveau textuel, enfin que ça s'est pas fait spontanément et que Jane Birkin a beaucoup œuvré pour que le rapprochement se fasse. Est-ce que, de ton point de vue, c'est aussi parce que tu étais un homme et chanteur et qui préférait définitivement les actrices non chanteuses?
Oui, c'est-à-dire qu'il était séducteur, Serge, et il avait besoin d'être rassuré dans le regard que les femmes posaient sur lui. Il les charmait, quoi. Comme il savait qu'il était pas beau, il jouait sur son intelligence, sur son humour, sur son talent, et il finissait par par faire craquer n'importe quelle femme. Hein. De toute façon, il a eu les plus belles, entre Bardot, et Jane, clair, etc. Mais il était intrigué aussi par, les, par, par une catégorie d'hommes qui lui semblait être son, son opposé, quoi, enfin, quelque part. Il a été, il avait écrit pour Dominique Walter avant.
Exactement, Les Petits Boudins.
Les Petits Boudins, ouais. Voilà. Et j'étais le deuxième garçon pour lequel il a accepté d'écrire les chansons. Je pense que Jen, effectivement, l'a aidé à accepter ça parce qu'elle m'aimait bien. On s'était croisés à plusieurs reprises. Et elle lui a expliqué un petit peu qui j'étais et que, qu'elle trouverait que c'était sympa qu'il travaille, qu'il accepte de travailler pour moi. Je ne sais pas. En tout cas, il m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse et on a collaboré longtemps avec, avec une belle complicité et c'était très agréable de partager ces moments avec lui. C'est juste après que Jen soit partie que c'est devenu compliqué parce qu'il en souffrait beaucoup et que, et qu'effectivement, il fallait accepter qu'il vive sa, cette période-là difficile pour lui et que et c'était il se noyait dans l'alcool et il a créé Gainsbar à ce moment-là. Et là, ça devenait c'était difficile, quoi, effectivement.
Mais si je ne m'abuse quand même, pardon, toujours sur ce thème de la masculinité, pardon. Donc il y a eu Dominique Walter, il y a eu Chamfort, puis il y aura Bachung. Mais si mes informations sont bonnes, Gainsbourg trouvait Chamfort irrésistiblement beau. Ça a fait aussi partie du
Ben parce que je pense que
package.
Je devais pas déplaire à Jen. Enfin, non, enfin, je veux dire, en tout respect et tout ça, j'avais bon, mais je pense qu'elle a contribué à lui à trouver que j'avais certainement que j'avais des armes de séduction et auxquelles elle n'était pas insensible.
Mais lui aussi, il n'était pas insensible.
Et je pense que
beauté.
Ça lui a transmis ça quelque part. Oui, à un moment donné, qu'il était. Et enfin, c'était. Mais notre relation n'était pas. Trouble sur ce point-là, malgré tout. On était, tu vois, il n'y avait pas de
voilà, d'ambiguïté.
Pas d'ambiguïté, oui.
Dandy Symphonique en tournée à partir de mercredi prochain, ça aurait dû être la semaine dernière, bah finalement c'est pas plus mal parce qu'on a pu se parler avant, mais c'est la semaine prochaine, mercredi 23 mars, donc sur la scène du Grand Rex avec l'Orchestre L'Amoureux, et puis il y aura aussi le 2 juin aux Libertés à Rennes, le 3 juin à Vannes, le 9 juillet à Mâcon, et le 17 décembre à Bressuire. Merci infiniment Alain Chamfort d'être venu dans Serge l'émission, justement sur Tsugi Radio. Et on se quitte avec un dernier extrait de Dandy Symphonique, cette relecture de Bambou, justement, Bambou, morceau de 1981 qui figurait sur Amour année zéro. Et on se croise très bientôt sur la route et peut-être donc le Grand Rex mercredi prochain. Bye bye.
Au revoir.
Tes silences se dessinent, bambou, des africaines abyssines, bambou, dans tes mutismes ton délire, bambou, va de l'Angola au Zaïre. Bambou voyage par la pensée, elle est près de moi mais m'a déjà quitté. Tous les silences de bambou hurlent dans ma tête et me rendent fou. Tes yeux absents se dévoilent, bambou, des fièvres moiteurs tropicales, bambou, quand tes pupilles se dilatent, bambou,
trouve des étangs si miroiteux. La saison des pluies est passée. Bambou ne pleure plus, elle s'est vite consolée. Tous les silences de bambou hurlent dans ma tête et me rendent fou. Bambou, bambou. Se dessine bambou, des africaines abyssines. Bambou, dans tes commotions cérébrales. Bambou, je vois l'Afrique équatoriale.
In 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.